qui sont d'accord sur une plateforme minimum. Cette plateforme, c'est la charte des radios libres qui a été signée en janvier 81 à Lyon.
Est-ce que tu peux nous en donner un aperçu de cette charte?
Oui, cette charte prévoit donc une base minimum d'accord au sein des différents collectifs français
Oui.
de radios libres,
Oui.
c'est-à-dire tout d'abord le localisme des émetteurs, des radios, c'est-à-dire une portée qui ne dépasse pas une trentaine de kilomètres, donc qui s'ancre sur un bassin de population bien défini, sur une population entre les diverses composantes, il y a des liens entre lesquels il peut y avoir véritablement quelque chose qui passe, plutôt qu'une immense radio nationale ou une immense radio même régionale. Une radio régionale, ça ne
Oui.
veut pas dire grand-chose dans notre
Oui.
pays. Et à ce niveau-là se rajoute quand même le problème de la puissance de l'émetteur. Nous voulons absolument, nous ne fédérons que des radios qui sont et des radios locales et des radios qui acceptent de limiter la puissance de leur émetteur à une puissance qui peut être variable selon la configuration du terrain, enfin qui est de l'ordre de 50 à 300 watts.
Oui.
Et surtout, ce qui nous oppose à l'autre fédération des radios, c'est le refus de toute commercialisation des ondes, c'est-à-dire le refus de la publicité commerciale en tant que telle, même si on peut discuter des moyens de financement, et nous voulons discuter, des discussions sont engagées actuellement avec le nouveau gouvernement, avec le ministère de la Communication. Nous ne voulons pas laisser la moindre porte ouverte à une future commercialisation des ondes par RTL, Europe 1 ou Darty intermédiaire.
D'où l'intérêt de se fédérer au niveau national.
La fédération au niveau national, si elle n'est pas indispensable, je pense quand même qu'au niveau du contenu de chaque radio peut avoir un effet à plus ou moins long terme.
Oui.
C'est-à-dire que si on laisse faire les choses en l'état, on s'est aperçu par exemple le soir du 10 mai, il y a quelques émetteurs qui se sont mis en route à 8 heures du soir. Par exemple, sur Paris, un émetteur qui fait maintenant 3 kW, ce qui est absolument énorme, ça porte à 100, 150 km, un émetteur de 3 kW qui a envoyé l'indicatif les trois notes au synthétiseur d'un film de science-fiction qui a eu un grand succès il y a quelques années. Bon, on a appris 2 jours après que cet émetteur avait été financé par une société dans laquelle Le Monde avait 30%, dans laquelle
Oui,
des
alors c'est
sociétés
assez
privées.
dangereux, ça.
Donc
Oui.
ce sont des gens, c'est ce qu'on appelle le maquage des ondes. Ce sont des gens qui occupent une fréquence avec une bande sans fin, qui occupent une fréquence avec un très gros émetteur pour éviter que sur cette fréquence ou à côté de cette fréquence aillent se placer d'autres émetteurs. Donc c'est. Si tu veux, les ondes, c'est quand même relativement limité. C'est moins limité qu'on a pu le dire il y a quelques années, en particulier notre ancien ministre, M. Leca. C'est moins limité. Mais sur une ville comme Paris, on peut mettre au maximum 35 radios. Il peut y avoir 35 stations. Une station, techniquement, occupe 300 kHz. Donc, sur la bande 88, 104 MHz, on peut mettre environ 35 stations, et même qu'elles soient de puissances différentes. Quelle que soit la puissance, une station, une porteuse en FM occupe 300 kHz. Donc le problème, c'est une matière première. La gamme FM est une matière première comme une autre, donc limitée, mais n'est pas aussi limitée qu'on veut bien dire. C'est 35 radios, c'est quand même énorme sur une ville.
Bien sûr, oui.
Mais il faut combattre quand même actuellement, donc sur Paris et même sur Lille, il commence à y avoir des petits signaux de temps en temps. Il faut quand même éviter que des gens se mettent, qui n'ont rien à dire, du fait qu'ils envoient un indicatif ou qu'ils envoient un disque sans fin. Il faut quand même éviter que ces gens-là s'approprient des ondes qui ne devront appartenir qu'après une négociation et après un projet de loi sur la destination des ondes en 1982.
Eh bien Philippe, je te remercie. Je rappelle que Philippe Carlier est membre de Radio Lille et membre du secrétariat national de la Fédération des radios libres.
Maintenant, le Quartetto Cédrone, le chant du coq, c'est notre deuxième disque. Vous êtes sur 100,3 MHz et vous écoutez Radio Provisoire, émission numéro 0. S'il est l'émission vous intéresse, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. Radio Provisoire, Christian Lejaune, 5 rue du Fer à Cheval, à Arras. Vous pouvez aussi venir à notre réunion le lundi 22 juin à 20h30, petite salle des concerts. Radio Provisoire, émission numéro 0. Maintenant, nous allons avoir une interview à propos des immigrés. Bouba Diop est sénégalais. Il a séjourné en France durant 9 ans et il est rentré au pays depuis 3 ans. Il a un projet de coopérative agricole en Casamance, qui est au sud du Sénégal. Marc Seniard est militant du comité de soutien aux immigrés et membre de l'association 1% Pierre Monde.
Marc, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de la situation des immigrés en France, du temps où Giscard était au pouvoir? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu considères qu'il y a eu des changements depuis que François Mitterrand est président de la République?
Oui, bonsoir, c'est une question là très directe. Je suis du 1% Tiers Monde pour un développement solidaire. C'est à ce titre que sur Arras et sur l'ensemble de la France, d'ailleurs, des militants ont essayé d'entraîner à travers les syndicats, à travers les organisations humanitaires, à travers des différentes personnes sur le problème essentiel des travailleurs immigrés qui étaient totalement déniés, n'avaient simplement que leur reconnaissance de travail, leur force de travail, ils n'étaient absolument pas reconnus comme des hommes par entière.
Et sur la région d'Arras, il y a beaucoup de travailleurs immigrés, il y a des foyers, il y a des problèmes.
Vous savez peut-être qu'il y a eu un foyer simplement ici sur la place d'Arras, il n'y a pas un grand nombre d'immigrés. Oui. C'est bien le problème qui s'est posé au comité de soutien qui s'est formé à Arras. En 1979, il y a eu environ une quinzaine d'associations qui s'étaient mobilisées. Mais la difficulté a été d'accueillir des immigrés avec nous sur la place d'Arras par leur petit nombre et aussi par parfois un blocage de la part de certaines organisations. Mais tout à l'heure, au début, tu parlais de ce qui avait été sous l'ancien régime, si l'on peut s'exprimer
oui,
ainsi.
Eh
bien, il y a eu ces lois, là, vraiment des textes pour mettre à la merci les immigrés, qu'ils soient maghrébins, africains ou d'autres nationalités. Et bien sûr, la première lutte qui a été menée, c'était une lutte sur le plan juridique, essayer une bataille au Parlement, mais sans majorité, il était impossible de gagner quoi que ce soit. Petit à petit, donc, les gens et les militants de partis, même, ont reculé, ont dit « c'est un blocage ». Et est arrivé le 10 mai, il y a quand même un espoir formidable, car les premières décisions sont très favorables et on peut espérer qu'effectivement le gouvernement de gauche mettra en œuvre une politique qu'il a dit et présenté comme voulant créer une société pluriculturelle, pluriethnique, refusant toutes les expulsions des étrangers. C'est déjà quelque chose de formidable, une libération pour des tas d'étrangers, de travailleurs immigrés qui peut-être vont réellement pouvoir s'exprimer maintenant, sachant qu'ils ne seront pas combattus, qu'ils seront plutôt écoutés.
Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que les problèmes seront comme cela résolus, ou est-ce que tu penses que des luttes sont encore envisageables, notamment sur Arras et en France d'une façon générale? Est-ce qu'il est encore nécessaire de lutter, et est-ce que c'est prévu?
Ah, certainement, oui. Ça n'est pas un coup de baguette magique qui va tout changer. Et même si l'espoir est vivant à l'heure actuelle, il y aura un travail encore très important, des luttes à mener pour obtenir l'égalité des droits, pour obtenir ce que demande la coordination nationale, par exemple, des travailleurs immigrés, le retour de tous les expulsés, les sans-papiers, la régularisation de tous les sans-papiers.
C'est ça, oui.
Et obtenir aussi, avec le nouveau Parlement, ce qui n'est pas sûr, un débat parlementaire global sur l'immigration. Ça, c'est une lutte qui sera menée à ce niveau-là pour obtenir une discussion réellement globale sur ce problème.
Et comment se situe par rapport à ces luttes le mouvement 1% tiers-monde que tu représentes?
Moi, je crois qu'il est inséré à la fois dans les syndicats, dans les associations, autres associations, et à chaque fois que nous avons pu ici sur la place d'Arras relancer le collectif de soutien, on a essayé de mettre tout le paquet, comme on dit.
Oui.
On recommencera, j'espère, et peut-être qu'une prochaine réunion pourrait avoir lieu très bientôt du collectif de soutien pour remettre en place une nouvelle forme d'action.
Oui, vous avez une presse, vous publiez des journaux pour populariser vos initiatives.
En ce qui concerne, là, tu parles le mouvement 1% tiers-monde.
Oui.
Le mouvement 1% tiers-monde pour un développement solidaire a un bulletin solidarité, mais il travaille surtout avec d'autres collectifs et un autre revue qui s'appelle Peuple en marche. Peuple en marche montre bien qu'il y a un départ et qu'il faut continuer pour réaliser cette société pluriculturelle, pluriethnique et véritablement solidaire. Car le problème fondamental, c'est bien, en définitive, de partager le pouvoir et la vie tous ensemble, ici, les travailleurs immigrés, les travailleurs nationaux.
Bien, eh bien, Marc, nous te remercions. Maintenant...
Maintenant, notre troisième disque, Lou Reed, Kill Your Sons.
They said they let you live at home with mom and dad. They stayed in mental hospitals. But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Of course you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons? Kill your son until they're run away. Mom pulled me on the phone. She didn't know what to do about that. You took an axe and broke the table. Aren't you glad you're married? And sister, she got married on the island, and her husband takes the train. He's big and he's fat, and he doesn't even have a brain. They're gonna kill your son. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons? And when I flipped out on PHC, I was so sad I didn't even get a letter. All of the drugs that we took, it really was lots of fun. But when they shoot you up with orazine or crystal smoke, you choke like a son of a gun. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons? Until they run away.
Bouba Diop. Bouba, tu as un projet de coopérative agricole au Sénégal, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, je tiens d'abord à préciser une chose. Vous avez présenté Bouba comme un travailleur immigré qui a passé 9 ans ici en France, ce qui est vrai. Mais je pense que après la victoire en fait, de la gauche, il est important de situer un peu le problème. C'est-à-dire que passer 9 ans en France, repasser ici, bon, les gens se demandent la question, bon, un immigré qui a passé 9 ans, qu'est-ce qu'il fait ici? Bon, je dois préciser que je suis ici de passage et que je suis ici dans un cadre d'une coopérative au Sénégal. Alors, le but, c'est de constituer à partir des villages au Sénégal, à créer une coopérative qui cherche à transformer les conditions de vie des paysans habitant le Sénégal. Alors, comme vous le savez, principalement, les travailleurs immigrés qui sont ici en France viennent des pays, des régions où ils étaient auparavant des cultivateurs. Donc en fait, c'est des cultivateurs qui ont été transformés en prolétaires ici en France. Donc il se pose un problème de la réintégration de ces travailleurs dans leur pays d'origine. Bon, et à propos justement de la réinsertion sociale, il est important aussi que je me situe par rapport à ça. Bon, puisqu'il est évident qu'actuellement, c'est-à-dire que avant les élections, il y avait une campagne qui visait à renvoyer les travailleurs chez eux. Et à partir, il fut que quelques années, on a créé en fait une loi qui disait qu'en fait qu'il y avait un chômage impressionnant en France et qu'il fallait faire tout pour que les travailleurs immigrés rentrent chez eux. Et à partir de ce moment-là, on a dit qu'il fallait voter un pécule, 1 million, pour que les travailleurs rentrent chez eux. Et à partir de ce moment-là, on a forcé un peu les travailleurs pour qu'ils rentrent. Et quant à moi, je dis une chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne doit pas forcer les travailleurs à rentrer. Bon, c'est des travailleurs qu'on a imposés pour venir ici en France, donc le retour doit être un retour qu'ils souhaitent eux-mêmes, quoi, mais qu'il ne soit pas un retour forcé. Et pour ceux qui retournent, justement, comme je l'ai dit avant, la majorité d'entre eux qui sont d'origine de la paysannerie ne peuvent être intégrés qu'à partir de la paysannerie. Et actuellement, il est possible, effectivement, en partant des conditions actuelles, de faire des coopératives agricoles, pour des coopératives en fait communes, pour que les travailleurs puissent faire des choses avec leur famille et rester sur place.
Tu disais que tu es de passage en France seulement. Et justement, tu veux prendre des contacts de soutien à la coopérative?
Oui, je tiens à faire des contacts de soutien. Justement, c'est comme disait le représentant du Carmonde, je crois. 1% Carmonde, pardon. Et que nous avons contacté au niveau national. Et on a eu une première réunion et on doit se revoir dans le courant de la semaine prochaine. Donc je pense que des organismes d'entraide et de soutien de ce type peuvent effectivement jouer un rôle important en ce qui concerne les coopératives qui aujourd'hui prennent pied au Sénégal.
Oui. Tu espères aussi un soutien financier, une aide matérielle. Tu peux expliquer un peu comment ça peut se concrétiser par tout le monde, par tous les gens qui sont intéressés?
Oui, bon, actuellement, sur l'Afrique, vous savez que bon, l'Afrique a été pillée pendant la colonisation, que au niveau même de l'agriculture, est très archaïque. On cultive avec les mains. Et actuellement, donc, il serait important qu'on se pose la question d'intégrer carrément la paysannerie. Et pour cela, on a besoin d'une aide. Bon, de l'aide matérielle, effectivement, et puis de l'aide financière. En ce qui concerne l'aide matérielle, bon, je peux dire qu'actuellement, nous avons contacté nationalement les paysans travailleurs qui nous ont mis en rapport avec les paysans de la Bretagne qui déjà s'intéressent à notre projet et ont donné quelques soutiens matériels. Bien sûr que les soutiens financiers seraient une bonne chose.
Oui. Peux-tu préciser où on peut te contacter, comment on peut t'apporter ce soutien?
Ce soutien peut être apporté directement à Paris. Et je peux vous donner l'adresse exacte.
Oui.
Pour ceux qui veulent soutenir financièrement, ils peuvent envoyer soit un chèque à Madame Roque, R-O-Q-U-S, Evelyne. Madame Roque Evelyne, 29 rue Louis Braille, 75-012, Paris.
Madame Roque, 29 rue Louis Braille, 75-012,
Paris.
Voilà. Maintenant, nous allons passer un disque d'Akendenge. Est-ce que tu peux nous dire qui
oui.
c'est
Akendenge, c'est un chanteur, en Afrique, un chanteur qu'on dit progressiste. Bon, ici, le terme engagé, le terme qui correspond, c'est un chanteur engagé. Mm-hmm. Et Akendenge, c'est un chanteur de la forêt. Il chante la forêt, il chante les balades dans les campagnes. Et c'est un très bon chanteur.
Voilà, Akendenge.
Thank you. à sa pérennité, à son caboulet.
103,3 MHz, vous écoutez Radio Provisoire, émission numéro 0. Nous continuons l'interview de Bouba Diop sur le Sénégal. Bouba, tu veux quelque chose à nous dire sur le fleuve Sénégal?
Il y a en ce moment un grand débat, principalement parmi les organisations de l'immigration, sur les barrages qui doivent exister, qui doivent commencer bientôt sur le fleuve Sénégal et qui concernent quatre pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée. Alors, ce barrage qui va coûter à peu près 1 milliard de dollars est financé par l'Allemagne fédérale, par la France, par les États-Unis, le Canada et une participation des pétrodollars, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite et puis de l'Irak, à peu près 20%. Alors, ce qu'ils visent à travers ces barrages, c'est en fait bon de constituer, de créer sur une grande zone qui sur une surface de 1000, j'ai oublié combien d'hectares au niveau national, mais sur une longueur de 1600 km, c'est de constituer en fait bon des cultures vivrières qui seront destinées à l'importation.
Oui.
Et comme vous savez, en Afrique, le grand problème que nous avons, c'est que depuis la colonisation, on a forcé les pays colonisés à cultiver une culture d'exportation. Et actuellement, il y a justement des problèmes à ce niveau-là, au niveau du barrage. On reviendra tout à l'heure sur le barrage. Bon, pourquoi actuellement il y a des problèmes concrets qui se posent au niveau du barrage? Bon, comment se fait-il que dans un pays comme le Sénégal, où la population agricole représente 70%, et pendant la colonisation, les paysans, les pasteurs arrivaient à se nourrir, à manger, à leur faim, etc. Et qu'actuellement, bien, en introduisant la culture d'exportation, bien, les paysans n'arrivent plus, en fait, à vivre. Et de ce point de vue-là, il y a un projet impérialiste qui est en vue et qui est pour, en fait, puisque l'arachide actuellement n'est plus exploité comme avant, parce qu'il y a, d'autres huiles, il y a l'huile de soja, etc. Actuellement, les gens pensent qu'il faut faire des cultures vivrières, d'autres cultures vivrières.
Oui.
Bon, je reviendrai tout à l'heure sur le barrage proprement dit, les inconvénients qu'il y a à propos du barrage.
Oui. Marc a quelque chose à dire sur ce plan.
Oui, alors je crois là c'est un genre d'action où peut se développer un réseau de solidarité avec les travailleurs sénégalais, et notre mouvement a lancé déjà un appel à ce sujet. L'Union Générale des Travailleurs Sénégalais qui avait dévoilé ce rapport de l'aménagement des barrages et qui va provoquer tout à l'heure, il l'expliquera mieux que moi, hein, la déportation d'un grand nombre de travailleurs, de paysans. Bon, nous ici en France, on peut alerter à différents niveaux et intervenir près des organisateurs. C'est un organisme qui avait tenu une séance à l'UNESCO au mois de mai. Nos militants, par exemple, ont adressé des télégrammes pour dire que le fleuve Sénégal soit d'abord fécond pour les paysans et non pas pour des intérêts privés. C'est un réseau de solidarité qui peut se créer, et c'est là vraiment, travailleurs d'ici, travailleurs de là-bas, que l'on peut ainsi développer cette conscience internationale.
Oui, bon, sur les méfaits du barrage, Il faut rappeler tout de suite que le long du fleuve, il y a 700 000 personnes. Donc, ce que, à travers le barrage qui va avoir lieu, bien, ce qu'on vise principalement, en fait, c'est de regrouper les paysans, en fait, dans ce qu'on peut appeler des bantoustans, comme en Afrique du Sud. C'est-à-dire que, en fait, on les met en petits groupes, bon, pour tout au long du fleuve, en vue, bon, en fait, de les intégrer au niveau de l'agriculture. Alors, bon, les méfaits que ça a, c'est que au niveau de la vie, d'abord la vie traditionnelle, va bouleverser, bon, entièrement et totalement la vie communautaire au village, parce que c'est des villages qui ont toujours vécu ensemble, alors qu'avec ces grands projets, en fait, on va les disséminer un peu partout le long du fleuve. Et à travers cela, bon, la population il y a d'autres méfaits aussi, et à part les problèmes bon de, comment on appelle ça, les problèmes bon d'isolement de la population, il y a aussi bon des problèmes de santé, parce que avec les barrages, bon, il faut qu'il y ait de l'eau, et à partir de l'eau, en fait, les problèmes de santé vont se poser. Alors bon, disons que bon, moi j'avais préparé le texte intégral, je ne sais pas si j'ai le temps de le lire, mais si vous voulez, on reprendra ça quoi, tout à l'heure.
Awantwe,
oh,
zingani nkogo.
Yeno.
Anto miaye ni nwenyono. Uraga kendi ye kusoki koni na unge. Ayelewa nukubongi holi kunkala. Ndui ganyero runda nenyerite nukoli. Urane ambuku, ate nozono. Yebe tuwa nyogarwe. Nibete nao, nukaveri uragika woge.
Oh.
Antwe,
oh,
zingano lamba.
Yeno.
Hagendi wora kenda. Kawomu yenkala ere mbola mwantu. Yedua nanka. Ini nyenincha isarende. Nibye jene wora. Mbola mwantu ne yowe. Madengo miwami. Mabangi niye wora mbora idewa. Nulela ugendo, wora sungoke dewa. Ndokwera nenge anivi wora ejene nke ironga.
Oh,
gobele bogi nya yeno. Kei kebo. Because in borane amincha isarende. Nyageno myogwera. Inongo nyinkei. Vinyu kawe no mabele pugi namye. Mama babo kazeli gamba. Nyegena ne meyo nyino. Nyedwana vono anka. Ndo agwera bazungi na gwera mori dudu konongo. Chuchu bibibi. Wore dimbo apundivo. Urage kotiza ye ncha isarende, kotiza. Ncha isarende kamemi yene yeni, unomwa mingodumi, ayeni mewono ibe sunga gawe uwera uwere tuwe. Urane je, mamangwe, tatangwe, nyebele finya wongi ami.
Godumi ono mwanye, oribaza abuliane.
Vous écoutez toujours Radio Provisoire, Radio Locale d'Arras, émission numéro 0. Radio Provisoire, vous êtes sur la bonne fréquence.
Toujours Radio Provisoire. Bouba, tu peux conclure ton interview?
Oui, je conclue en disant que, premièrement, bon, j'espère qu'on aura une autre émission. Et là, je viendrai avec quelques documents, notamment sur la région du fleuve et sur ce fameux barrage. Alors, bon, je conclurai pour dire que la majorité des immigrés que j'ai vu, que j'ai rencontré, et les associations qu'ils représentent ici sont dans leur grande majorité contre ce barrage. Et par conséquent, le gouvernement français devait tenir compte de cet élément-là. C'est-à-dire que c'est un projet en fait qui vise à faire bon, du fleuve Sénégal en fait un grenier pour les cultures vivrières destinées à l'exportation. Ça c'est un. De deux, c'est que la population de la région, de la dite région, n'a pas du tout été informée de ce projet-là. Donc il n'y a pas du tout eu d'information sur les conséquences bon, négatives quoi, de ce projet. Et que troisièmement, il est fort possible de faire un autre type de développement en partant des zones irriguées, avec des petits périmètres irrigués, où les paysans eux-mêmes contrôleront la production. Et que cette production servirait pour les cultures vivrières. Alors donc on reviendra pour la prochaine fois sur ce fameux projet.
D'accord, ben on espère bien que tu vas revenir. Pour conclure, je précise que pour vous tenir au courant, vous pouvez toujours lire le journal Sans Frontières. C'est un hebdomadaire.
Et maintenant, Pauline Julien. Non, tu n'as pas de nom.
Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou un douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Non, tu n'as pas de nom. Ça veut-il que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête, tu ne seras pas mon sang. Veut-il de mon ventre, pense-t-il qu'on en dispose, quand je suis tant d'autres choses? Non, 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 tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Écoutez toujours Radio Provisoire. Vous êtes toujours sur la bonne longueur d'onde, Radio Provisoire, émission 0, qui émet depuis Arras. Dans quelques instants, nous vous donnerons une interview de Raymond Hatt, délégué du personnel de la société CECA de Feuchy, à côté d'Arras, qui nous parlera des problèmes de l'emploi dans son entreprise.
Mais avant, on va vous passer un disque de reggae, Misty, au Wicked Man.
Food for thought.